Vous allez écouter les fictions fantastiques des 4e 3 du Collège Nantes-Centre, accompagnées par leur enseignante Juliette Mersanne, prise de son et montage Damien Fourcault.
Le collier.
Je m'appelle Rose Delorme. Une histoire incroyable m'est arrivée. C'était un soir d'hiver, froid et glacé. Je rentrais chez moi après une longue journée passée au collège. Je prenais le bus car j'habitais dans la campagne, loin de mon établissement. Il faisait noir et j'étais seule à l'arrêt. J'étais vraiment fatiguée et j'avais du mal à ne pas m'assoupir. Mes yeux s'assombrissaient peu à peu. J'avais froid. Je n'arrivais plus à résister, je m'endormis.
En me réveillant, je vis que le dernier bus était passé et mon téléphone, comme par hasard, n'avait plus de batterie.
Zut !
À 5 minutes d'ici se trouvait une cabine téléphonique. Je m'y rendis, peu sûr de moi. Je composais le numéro de ma mère que je connaissais par cœur. Mais personne ne décrocha. Il y avait un silence pesant et anormal à l'autre bout du fil. Je pris peur et raccrochai d'un coup sec. Je décidai alors de rentrer chez moi, à pied, puisque ma mère ne répondait pas.
En rentrant à la maison, je vis ma mère pleurer avec mes deux sœurs comme si quelqu'un était mort. Mais comme je faisais la tête à ma mère depuis plusieurs jours, je ne cherchais pas à comprendre et montais dans ma chambre. Je me suis toujours sentie différente, pas comme tout le monde. Mais à ce moment-là, je me sentais vraiment seule, comme si personne ne me comprenait.
Le lendemain, j'allais au collège en essayant de ne plus penser à ce sentiment de solitude. En sport, nous avions une course d'orientation à faire dans la forêt à côté de l'établissement. Notre but était de retrouver toutes les balises. J'étais avec un garçon nommé Charlie, mais bizarrement, il ne m'écoutait pas quand je lui parlais et avançait sans même me regarder. Cela me vexait beaucoup, alors je le laissais se débrouiller tout seul et je m'éloignais dans la forêt pour m'isoler un peu. Au bout de 5 minutes, je ne savais plus où j'étais. Je réfléchis pour trouver comment sortir de là. Je me rendis compte que la forêt avait beaucoup changé depuis la dernière fois. Les arbres avaient beaucoup poussé. Pour m'aider, je cherchais la pierre d'ambre suspendue à mon collier porte-bonheur autour de mon cou. Il n'était plus là. Pourtant, je le portais tous les jours. Avais-je oublié de le mettre ce matin ? Après une bonne heure, je retrouvais enfin mon chemin, mais tous les autres élèves de ma classe avaient disparu. Pas possible, il m'aura attendu quand même.
Heureusement, j'habitais pas loin, donc je pouvais encore rentrer à pied. En tout cas, je comptais bien me plaindre du collège à ma mère. C'est inadmissible qu'il m'ait oublié. Ma mère était encore au travail et mes deux sœurs à la maternelle. Je rentrais à la maison, je montais dans ma chambre et me mis tout de suite à chercher mon collier d'ombre. C'est étrange car je ne l'enlevais jamais de mon cou. Je ne le trouvais pas dans ma chambre.
La veille, j'avais fait de la balançoire dans le jardin avec mes sœurs. Peut-être que je l'avais perdu à ce moment-là. Je sortis dans le jardin pour partir à sa recherche. En scrutant la pelouse, je tombai sur une dalle de pierre sous un tas de feuilles en bas du châtaignier. C'est étrange. Je ne l'avais jamais remarqué avant.
Du pied, je poussais les feuilles. Je vis un objet briller. C'était la chaîne de mon collier. Je me penchais pour le ramasser et réalisais que des lettres étaient inscrites sur la pierre. On aurait dit une tombe. À la hâte, je me suis mis à dépoussiérer la pierre tombale. Il y avait pas mal de mousse dessus.
J'arrivais à lire les dates, 8 novembre 1984, 17 juillet 1999. Mais qui était là-dessous? Je me sentais prise de panique. Je commençais à me sentir envahie de vertige. Effrayée, je frottais la pierre encore plus fort pour distinguer les lettres qui étaient inscrites. Une sueur froide m'envahit. Le nom apparaissait maintenant clairement. Rose Delorme.
Adam.
Luce.
Gabriel.
David. Antonin.
Mamfazou.
Une nuit au bord de mer.
L'été dernier, je partis en vacances avec mon meilleur ami Victor. Gentiment, les parents de Victor m'avaient invité dans leur résidence secondaire dans un petit village perdu au sud de la France. Après un long voyage que nous venions de Nantes, nous arrivâmes et Victor me présenta à ses parents. Je remarquai que le père avait une étrange cicatrice sur son œil droit, mais je n'osais pas lui demander d'où elle venait. Je vis ensuite que la mère avait des yeux verrons et un regard vide. Victor me fit visiter la maison. À première vue, elle était en bon état. Mais en regardant de plus en plus près, on voyait bien qu'elle était très vieille et surannée. Le plancher grinçait et tous les objets paraissaient avoir plus de 100 ans.
Désolé Michel, mais il n'y a pas assez de place pour mes parents et nous. Tu veux bien dormir dans le grenier ?
Me demanda Victor d'un air soucieux. Il semblait bizarre, presque apeuré. Pourquoi moi ? Je ne saurais jamais. Mais comme j'étais bien élevé, je lui répondis.
Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas.
Après un délicieux repas composé de fruits de mer, je montai au grenier. Dès que j'entrais, la porte claqua derrière moi. Je me retournai en sursautant. Je n'avais même pas le temps de réagir que le loquet se ferma violemment, m'enfermant dans le grenier. J'eus beau tambouriner de toutes mes forces, impossible de rouvrir la porte. J'en profitai alors pour explorer la pièce. La vue depuis l'unique fenêtre était magnifique. Je voyais le bord de mer et la longue plage de sable fin. Mais ensuite, je remarquai d'étranges détails. Déjà, l'horloge était bloquée sur 4h30. Puis j'ouvris le placard dans lequel il y avait des vêtements d'enfants, trempés, qui paraissaient avoir été utilisés la veille. Pourtant, Victor était fils unique. Peut-être de vieux habits qu'il avait quand il était petit. Bizarre, mais pourquoi pas. Je me tournai ensuite vers le lit pour me coucher, car il était déjà tard. Mais en me rapprochant, je vis qu'il y avait de petites empreintes de pieds mouillés qui allaient vers la fenêtre. Je décidai de ne pas m'en préoccuper.
Totalement perdu et inquiet, je m'allongeai sur le vieux lit grinçant en essayant d'oublier tout ça. Et je m'endormis immédiatement.
Tard dans la nuit, alors que le soleil était couché depuis plusieurs heures, je me réveillai alerté par des bruits, comme des cris d'enfants qui provenaient de la fenêtre. Dans un état second, je me levai et je m'approchai de cette mystérieuse fenêtre. Je jetai un coup d'œil et j'aperçus des ombres qui couraient et criaient sur la plage. Intrigué et un peu effrayé, j'ouvris la fenêtre pour mieux les voir. J'étais comme attiré par eux, je passai à travers l'ouverture et glissai discrètement le long du toit pour me glisser dehors. Je marchais un peu sur un petit chemin de sable et me retrouvais sur la plage. Je m'avançais, tremblotant, et j'aperçus alors l'origine de ces cris, deux enfants qui s'amusaient au bord de l'eau. Ils devaient être âgés d'une dizaine d'années. Je m'approchais, mais à leurs yeux, j'étais comme invisible. Perplexe, je les observais longuement, sans savoir quoi faire. Soudainement, la cloche de l'église sonna 4h30. C'est alors qu'une tempête se leva sur la mer trouble et un inquiétant frisson me parcourut. Brusquement, les enfants se firent comme avalés par les eaux sombres et tumultueuses.
J'accourus pour tenter de les sauver, mais je me fis repousser par les puissantes vagues. Subitement, je tombai, emporté avec une vague brutale. J'étais sur mon lit, trempé de la tête aux pieds. Encore tremblant et sous le choc, je me levai et me changeai. Quand j'eus enfin enfilé des vêtements secs, je pris quelques secondes pour retrouver mes esprits. Je décidai d'aller essayer d'ouvrir la porte du grenier. Et bizarrement, elle était ouverte. Perplexe, je descendis dans la maison. Quand j'arrivai en bas, le petit déjeuner était servi. Victor et ses parents m'attendaient. Ils semblaient tous sereins, même Victor, qui, hier, avait paru bien inquiet.
Je décidai d'oublier les événements de la veille et m'assis avec Victor pour manger. Je jetai sans le vouloir un coup d'œil au journal local. Sur la première page, il y avait une photo des deux enfants de la veille. J'observai plus attentivement l'image quand je remarquai un mystérieux détail. La petite fille avait de beaux yeux verrons. En dessous, écrit noir sur blanc,
cela fait maintenant 10 ans, jour pour jour, que les deux jeunes enfants âgés à l'époque de 10 et 12 ans ont disparu. Ce drame survenu aux environs de 4h du matin reste toujours un mystère. Les deux enfants auraient fugué puis se seraient noyés en mer.
Choqué, je laissai le journal sur le sol. Je me penchai pour le récupérer quand je vis juste devant moi des petites empreintes de pieds mouillés.
Thomas,
Ilan,
Paul,
Léna,
Aminata.
L'urbex de trop. Jonathan et Louis étaient amis depuis la maternelle. Tous les week-ends, ils étaient ensemble, chez l'un ou chez l'autre. Samedi, ils avaient prévu d'aller explorer un coin perdu, une fois que leurs parents seraient couchés. Ils ne croyaient pas aux rumeurs et aux légendes, mais cela changea après avoir fait un urbex dans un château un samedi soir d'hiver. Ils franchirent la vieille porte en bois qui grinça sur ses gonds. À l'intérieur, l'air était froid et humide, comme si le château retenait son souffle depuis des siècles. Les murs étaient couverts de moisissures et de toiles d'araignées suspendues au coin des pièces. Mais le pire, c'était le silence presque lourd, comme si la maison elle-même attendait quelque chose. Jonathan avança d'un pas déterminé et Louis le suivait avec prudence. À mesure qu'ils avançaient dans les entrées du château, des bruits sourds se firent entendre. Des portes claquaient, des grincements de plancher et parfois un souffle froid sur leur nuque. Jonathan fronça les sourcils. Il était de moins en moins serein. Soudain, dans l'une des pièces les plus sombres, ils entendirent un cri. Un cri faible, presque imperceptible, qui les fait frissonner. Puis tout à coup, Louis tomba brusquement.
Tu as entendu ? Murmura-t-il.
Jonathan, bien que surpris, fit un signe de la tête. Il s'approcha d'une porte entrouverte. Quand il la poussa, la pièce était vide. à l'exception d'une vieille horloge en bois qui faisait des tic-tac étranges, comme si elle mesurait le temps d'une manière que le monde n'avait jamais connue. Mais en y regardant de plus près, Jonathan aperçut un reflet dans un vieux miroir poussiéreux. Ce n'était pas le sien, mais celui d'une silhouette sombre, vêtue d'une robe noire. Jonathan se retourna brusquement. Personne. Rien. Le sol se mit à trembler légèrement. Et une voix s'éleva dans l'air froid. Partez. Vous ne reviendrez jamais. Et c'est à ce moment-là que Louis commença à prendre peur. Pour se rassurer, il se dit qu'il hallucinait. Mais il décida quand même de rejoindre Jonathan pour lui dire qu'il fallait partir. Jonathan le regarda d'un air de dédain et lui répondit.
Tu es casse-pied à toujours avoir peur. Ne t'inquiète pas, il ne se passera rien. Tu t'imagines trop de choses. On peut rester sans avoir rien à craindre.
Je t'en supplie. Partons, c'est vrai.
Partez.
Louis, un peu terminé sa phrase que le sol s'en remit à trembler plus fort que la première fois. Puis, la même voix se leva pour dire qu'il avait prévenu.
Partez.
Maintenant, c'était la fin pour eux. Jonathan fut attaqué par les créatures qui semblaient être la suite noire, apparues dans le miroir. Ses longues griffes se refermant sur lui. Pris de panique, il se précipita pour fuir quand il réalisait que sa main saignait.
Un cri perça l'air. Un cri qui ressemblait étrangement à celui de son ami. Il s'arrêta net. Fit demi-tour pour aller chercher son ami Louis. Lorsqu'il arriva dans la pièce où était Louis, il était par terre, choqué par ce qu'il venait de voir. Jonathan lui tendit la main pour l'aider à se relever. Et c'est à ce moment-là qu'il se réveilla en sursaut, au milieu de la nuit. Il regarda l'horloge suspendue sur le mur, elle indiquait 4h36. Jonathan dormait toujours à côté de lui, mais son sommeil semblait agité. Il alla boire un verre d'eau à la cuisine et remarqua une blessure sur sa main droite, qui ressemblait étonnamment à celle de son cauchemar. Quand il revint dans la chambre, d'une voix remplie de terreur, Louis confia à Jonathan qu'il venait de faire un cauchemar. Jonathan lui répondit alors.
Moi aussi, j'ai fait un cauchemar et tu en faisais partie. Jonathan s'approcha de Louis. Il vit dans un coin de la chambre le miroir du château. Amjad.
Martin.
Emma.
Gina.
Une journée presque normale. J'étais sur le trottoir avec mes amis Thomas et Arthur. Thomas était tout le temps souriant et bienveillant, tandis qu'Arthur était sympa mais un peu énigmatique. Soudain, l'un d'entre eux m'a tendu une cigarette. Non, je n'ai pas le droit, désolé.
Mais t'inquiète pas, on ne dira rien à personne.
Bon, ok, fais-en une. Deux heures plus tard, je rentrais chez moi et comme prévu, je n'avais rien dit à mes parents. Ce soir-là, je mangeais avec mes parents. Puis je montais dans ma chambre avec des sensations étranges. J'étais fatiguée, je me disais que c'était normal.
Puis, après m'être lavé les dents, je me suis couchée.
Bon, ok, fais-en une.
Au bout de 30 minutes, bientôt 40, je ne dormais toujours pas. Je ne faisais que revivre le moment où Arthur m'avait tendu la cigarette et où je l'avais prise entre mes doigts, puis mise dans ma bouche. Je me répétais que c'était une mauvaise idée de fumer cette cigarette et que je n'aurais pas dû. Je finis par fermer les yeux et au bout d'un moment, la nuit tomba et je voyais mes amis qui disparaissaient, chacun leur tour.
Quand ils avaient tous disparu, petit à petit, je voyais le paysage bouger, se rapprocher de moi. Comme si tout le paysage voulait m'engloutir, m'étrangler. Je ne voyais presque plus rien et j'entendais des cris de partout et des coups de feu comme s'il y avait la guerre tout autour de moi. Je prenais peur, donc je courais pour retourner chez moi. Sur le chemin, je croisais mon ami Arthur, qui était à vélo. Il m'appelait, mais il ne répondait pas, car j'étais essoufflé. Je suffoquais et j'étais terrifié à l'idée de m'arrêter. Une fois que j'arrivais chez moi, je montais doucement dans ma chambre pour ne pas réveiller mes parents.
Je fermais la porte à clé pour me sentir en sécurité. Cette fois, ce n'était pas la même chose. Tous les objets de ma chambre s'envolaient et se mettaient à tourner autour de moi. J'avais tellement mal à la tête. Pris d'un malaise, j'essayais de rejoindre rapidement mon lit pour m'allonger. Mes oreilles sifflaient, j'étais pris de nausées. Le sol se dérobait sous mes pieds.